nous allons pouvoir reprendre. Alors, la fois précédente, je vous ai laissé en pleine violence. Donc, pour une fois, on va faire un peu de paix pour changer. Mais vous allez voir, malheureusement, la paix, c'est très bureaucratique. C'est parallèlement à cette déluge de violence sur le Liban Sud que s'engage la dernière négociation. La nouvelle session en Norvège a lieu du 24 au 26 juillet. Elle commence dans une ambiance tendue, au bord de la rupture, les Palestiniens maintenant leur position précédente. On convient finalement de retravailler chaque clause du texte et on ne tient pas compte des événements en cours au Liban, mais l'atmosphère est pleine de récriminations. La question est de savoir si la partie palestinienne accepte que la sécurité des Israéliens dans les territoires autonomes reste du ressort d'Israël ou non, c'est-à-dire le maintien de la colonisation, voire son éventuelle poursuite. S'y adjoint la question du contrôle des frontières. Autrement dit, les Palestiniens ne voient dans l'autonomie proposée qu'une continuation de l'occupation. La partie israélienne insiste sur la dynamique créée avec le transfert des compétences, marquant le début de la période de 5 ans aboutissant au règlement final. Les Norvégiens interviennent pour sauver la situation. Savir propose alors à titre personnel une reconnaissance mutuelle entre l'OLP et Israël, avec la résolution des conflits par des moyens pacifiques et l'abandon du recours à la violence. La proposition est immédiatement transmise à Tunis. Elle peut être interprétée de façon contradictoire, mais peut-être complémentaire. On peut la prendre comme un marchandage, l'autonomie aux conditions israéliennes contre l'acceptation de l'OLP comme acteur essentiel devenant partenaire, et ainsi pleinement intégrée au jeu politique et diplomatique. Elle peut être aussi interprétée comme la reconnaissance du droit des Palestiniens à l'autodétermination, avec toutes les conséquences que cela implique dans la constitution à moyen terme d'un État palestinien. Arafat montre son intérêt à cette ouverture que Rabin accepte sans réticence, la reconnaissance mutuelle lui apparaissant comme le complément logique de l'autonomie. L'étape suivante est la visite de Christopher au Moyen-Orient qui a été retardée par la crise libanaise. Tunis envoie un message au gouvernement israélien par le biais de la délégation palestinienne tenue à l'écart des tenants et aboutissants. Le 2 août 1993, à la veille d'être reçu par le secrétaire d'État, la délégation palestinienne reçoit pour instruction de lui communiquer le texte révisé passé par l'Égypte. Cela provoque une véritable mutinerie, ce document étant jugé offrir trop de concessions. Les délégués l'amendent durant la nuit, mais Arafat refuse les modifications et passe outre aux menaces de démission, marquant que c'est lui qui a le pouvoir de décision. Néanmoins, d'abord, la délégation ne transmet pas le 3 août à Christopher le document, dont il a déjà eu connaissance par la voie égyptienne. Elle obtient néanmoins quelques changements minimes de la part de Tunis et la mort dans l'âme, obéit aux ordres tout en préparant les lettres de démission. L'avancée la plus importante se produit dans le dossier syrien, le même 3 août. Rabin reçoit Christopher avec Rabinovitch et Rance comme preneur de notes. Le premier ministre israélien marque qu'il n'est pas possible de progresser simultanément dans toutes les questions. Sa préférence va à un règlement avec la Syrie et le Liban. Il est prêt à évacuer le Liban Sud après 6 mois de tranquillité, à condition qu'Israël obtienne des garanties de sécurité et que l'on prenne en compte ses alliés dans la zone de sécurité, l'ALS. C'est la position habituelle. Il doute d'avoir l'accord de la Syrie sur ce plan, d'autant plus, comme on l'a dit, ce n'est qu'une reformulation des propositions déjà avancées. La seconde option est de traiter directement avec la Syrie. Christopher est chargé de présenter, à titre d'hypothèse, qu'entre contrepartie d'un retrait complet du Golan, la Syrie accepte de conclure un traité de paix sans lien avec les autres négociations israélo-arabes et s'engage à une paix réelle comprenant la normalisation, les relations diplomatiques. Le retrait se déroulerait sur 5 ans parallèlement aux mesures de normalisation sur le modèle du règlement israélo-égyptien. Les États-Unis donneraient leurs garanties, en particulier en matière de sécurité. Il y aurait un référendum en Israël sur cet accord avant toute application. Toute cette proposition doit être absolument confidentielle, y compris à l'égard du ministre israélien des Affaires étrangères, Shimon Peres, qui n'en a pas été informé, et doit être présentée exclusivement comme une hypothèse. C'est le début de ce qu'on appellera le fameux dépôt de Rabin aux Américains. C'est une question de dépôt. Rabin a déposé in the pocket des négociateurs américains la proposition de se retirer de la totalité du Golan. Mais les Américains ne le présentent aux Syriens que sous la forme d'une hypothèse de travail. Hein, toute la négociation entre la Syrie et Israël va tourner sur ce fameux dépôt laissé par Rabin, dont les autres responsables israéliens n'ont pas été informés. Il n'y a que 2 Israéliens qui sont au courant du dépôt, c'est Rabin et Rabinovitch. Alors pourquoi tout ça? Pour une raison fondamentale qui reviendra d'ailleurs beaucoup dans les négociations, c'est que le système politique israélien est totalement poreux. La moindre décision collective est objet immédiatement de fuite. On sait pratiquement dans les heures qui suivent toute déclaration faite au gouvernement israélien, voire tout mémorandum décidé ou présenté dans une administration israélienne. Donc, dans un système qui est constamment touché par des fuites d'informations, on arrive au paradoxe que les décisions les plus fondamentales ne sont prises que par 2 ou 3 individus, sans consultation avec les autres, parce que c'est la seule façon de faire avancer un dossier, parce que sinon la fuite paralyse la progression du dossier. À ce point, il faut néanmoins avoir un point fondamental qui est que le seul dossier qui n'est pas touché par les fuites, c'est le nucléaire militaire. Et que tout Israélien qui oserait évoquer par fuite le nucléaire serait immédiatement emprisonné sans décision d'un juge, etc. Donc, il y a une opacité totale sur la question du dossier du nucléaire, alors que pratiquement tous les autres dossiers en Israël se retrouvent immédiatement dans la presse. Donc, je reviens à mon texte. En ce qui concerne les Palestiniens, Rabin évoque un accord limité à la bande de Gaza. Mais s'ils sont les premiers à conclure, on y ajoutera Jéricho. Le 4 août, Christopher et Ross sont à Damas et communiquent en petit comité à Assad le message de Rabin. Le président syrien comprend l'importance de la proposition qu'il ne prend pas pour une simple hypothèse. Il refuse le terme « normalisation » au profit de « relations pacifiques normales ». Il ne peut rendre obligatoire le commerce et le tourisme, mais ne les empêchera pas. Les arrangements de sécurité doivent être mutuels et de même pour les ressources en eau. Il accepte de disjoindre le volet syrien du dossier palestinien, mais souhaite au moins un accord limité dans ce dossier. Les Américains le rassurent. Usant de la litote, understatement, Assad explique qu'il ne voit pas d'obstacle à un règlement israélo-libanais une fois celui avec la Syrie acquis, du moment qu'Israël accepte les relations spéciales entre la Syrie et le Liban. Autrement dit, que l'État hébreu n'exige pas un retrait syrien du Liban. En revanche, il n'accepte pas un délai de 5 ans pour le retrait israélien. Les Américains donnent à Rabin la réponse d'Assad qu'ils ne trouvent pas satisfaisante Il ne veut pas entrer dans un processus de marchandage sous patronage américain. Vu la fermeté syrienne, cela se ferait au détriment des positions israéliennes puisque les Américains proposeraient des solutions intermédiaires. À la grande déception de Rabin, Assad a refusé l'ouverture d'un canal secret de communication. Dès lors, Rabinovitch va continuer la négociation avec des représentants syriens qui ignorent l'échange entre Rabin et Assad, tandis que les Américains conservent en dépôt, in our pocket, la proposition et que le président syrien s'engage à une stricte confidentialité sur le sujet. Autrement dit, dans la négociation, il y aura avec la délégation syrienne, Rabinovitch connaît l'existence du dépôt, mais les négociateurs syriens l'ignorent. C'est un peu compliqué, la diplomatie internationale. Néanmoins, ce dernier demande aux Américains d'obtenir de l'autre partie si Israël a des revendications sur le territoire, de savoir si Syrien ou front syrien. Ross obtient confirmation de Rabinovitch qu'il n'y a pas de revendication. Mais l'ambiguïté demeure. Les Israéliens pensent le retrait en fonction de la frontière mandataire, les Syriens par rapport aux lignes du 4 juin 1967 qui leur donnent un petit morceau de la Palestine mandataire important pour le contrôle des ressources en eau. Ça, c'est le rappel des cours des années précédentes, mais c'est le point essentiel. D'une part, il existe une frontière mandataire fixée par les accords franco-britanniques entre la Syrie et la Palestine mandataire. D'autre part, la ligne d'armistice de 1949 donne à la Syrie une enclave en territoire palestinien mandataire. La position israélienne, c'est que l'État d'Israël est le seul héritier juridique de la Palestine mandataire, donc que la frontière doit être la frontière mandataire. Or, pour les Syriens, il s'agit de revenir sur la ligne du 4 juin 1967, donc de conserver cette portion de la Palestine mandataire. Alors, le dossier se compliquera encore plus, puisque l'ONP, au nom des Palestiniens, revendique cette portion de territoire mandataire que veulent annexer soit la Syrie, soit Israël. Mais c'est bon, c'est quelques kilomètres carrés, c'est pas énorme, mais par contre, c'est des positions stratégiques importantes, en particulier sur le bord du lac de Tibériade, qui sert de réservoir en eau pour tout le système d'irrigation israélien. Enfin, la poursuite des opérations du Hezbollah au Liban Sud a un effet négatif sur l'appréciation de la politique syrienne du côté israélien. Durant sa tournée, Christopher a été informé par les Norvégiens et les Israéliens de la tenue des discussions clandestines, mais il n'y a pas attaché d'importance. Les Norvégiens ont organisé une rencontre encore plus informelle que les autres à Paris le 6 août, où Hirschfeld est le seul Israélien présent. Elle a permis de débloquer une partie des points litigieux. Toujours au courant de rien, la délégation palestinienne officielle a des entretiens tendus avec l'exécutif de l'OLP du 10 au 12 août. Elle retire sa menace de démission en lui promettant de tenir plus compte à l'avenir de ses réserves, en particulier pour la session suivante prévue pour Washington à la fin du mois. On lui donne la charge de mener la négociation sous la conduite de l'OLP, unique représentant du peuple palestinien, ce qui fait d'elle des représentants quasi officiels de l'OLP, mais la met en même temps sous l'autorité directe de la centrale palestinienne. De son côté, le Hamas souligne l'opposition entre le groupe Husseini et la direction de Tunis et exprime son scepticisme envers la solution politique. Je cite « L'État sioniste ne concédera dans la meilleure des cas rien de plus qu'une autonomie limitée à la population mais pas de souveraineté sur la terre et ne rendra jamais Jérusalem-Est. » Fin de citation. En conséquence, début de citation, il ne reste qu'une seule voie aux Palestiniens, la lutte armée, l'intifada contre l'occupation. Fin de citation. Les islamistes sont bien passés à la lutte armée. Le 9 et 10 août, 3 soldats israéliens ont été tués dans 2 actions distinctes dans les territoires occupés. Néanmoins, le Hamas accepte le retour échelonné des déportés au Liban. Début de citation. La décision finale revient aux expulsés eux-mêmes. Notre mouvement soutient toute position qu'ils adopteront à ce sujet. Fin de citation. Les intéressés acceptent à contre-cœur la proposition israélienne. Antissi explique ce revirement par l'accroissement du nombre de malades, la poursuite des négociations de paix, seul moyen de pression, et le désintérêt des médias. À leur retour, ils seront de nouveau arrêtés et éventuellement prisonniers. Le 11 août, Rabin exprime publiquement ses espérances d'une paix rapide avec la Syrie. Citation. J'espère beaucoup que les discussions avec la Syrie s'achèveront avant la fin de l'année. Je crois qu'aujourd'hui, il y a plus de chances de progresser vers la paix avec la Syrie, même si cela ne se produit pas demain, ni dans un mois, mais peut-être dans 3 ou 4 mois. Il ne fait pas de doute que depuis la dernière tournée, la semaine dernière, du secrétaire d'État Warren Christopher dans la région, il y a eu un certain changement dans les positions de la Syrie concernant son engagement dans le processus de paix et son aspiration à parvenir à la paix. Lorsque les Palestiniens s'apercevront que nous progressons avec les Syriens et les Libanais, nous enregistrerons également des progrès avec eux. Il se peut bien qu'il y ait un assouplissement de la conception syrienne de la paix. Fin de citation. La presse israélienne, sur une base de suppositions et de confidences, donne le sens général des propositions de Rabin à Assad, censées être totalement confidentielles. Il en est de même pour la presse arabe, qui souligne l'optimisme de Damas avec l'acceptation par les Américains de la liaison entre les volets syriens et libanais en ce qui concerne le retrait israélien. La pression s'est donc considérablement accrue pour la partie palestinienne lors de la 12e session secrète qui commence le 13 août en Norvège. On progresse sur un certain nombre de points par concession réciproque en donnant la priorité à la déclaration de principe sur celle de reconnaissance mutuelle. Le 14 août au soir, il reste 5 points à trancher. Mais Tunis, consulté par téléphone, refuse de céder sur la question essentielle du contrôle des frontières. Savir refuse de prolonger la session. Il doit retourner à Jérusalem pour faire le point avec Pérez, puis accompagner son ministre dans une visite officielle en Scandinavie. Pérez est en effet décidé à en finir en se saisissant directement du dossier en accord avec Rabin. L'affaire se règle le 17 août à Stockholm. Le ministre israélien, accompagné de Singer, se réunit avec l'équipe norvégienne. Holst, en tant que ministre des Affaires étrangères, fait la jonction téléphonique avec Arafat à Tunis. Ce dernier est en compagnie de Correil, tandis que Rabin est tenu informé à chaque instant de ces négociations téléphoniques qui durent 7 heures. Les Palestiniens ont été pris par surprise et Arafat a eu du mal à retrouver son équipe de négociations dispersée dans Tunis. Cette fois, ce sont des acteurs qui ont le pouvoir de décider. Arafat, Peres et Rabin, qui se parlent par l'intermédiaire de Holst. Peres menace un moment de revenir à l'option syrienne, mais les Palestiniens ne se laissent pas impressionner. Sur les 5 points litigieux, les Palestiniens l'emportent sur les questions de procédure. Référence dès le début à la résolution 242, ordre du jour de la discussion finale, abolition du gouvernement militaire des territoires occupés. On se met d'accord sur une formule ambiguë concernant le contrôle des frontières et on trouve un compromis sur l'installation éventuelle du siège de l'autorité palestinienne en Cisjordanie. Les Palestiniens cèdent sur les questions de sécurité en contrepartie de la mise en place d'un calendrier qu'ils pensent contraignant. Retrait de Gaza et Jéricho de décembre 1993 à avril 1994, élection du Conseil palestinien en juillet 1994, transfert des compétences dans la période qui suit et redéploiement des forces israéliennes sur les zones peu peuplées de Cisjordanie, début des négociations sur le statut final en 1995, qui doit être établi à la fin de 1999. Dès lors, il faut juste le temps pour les équipes de se précipiter en Norvège. La réunion finale a lieu à Oslo le 19 août. Un juriste égyptien relit pour le compte des Palestiniens le texte de la déclaration de principe et leur assure qu'il n'y a pas de piège. On relit ensuite un protocole de coopération économique. Dans la nuit, Peres quitte ses obligations officielles et rejoint les délégations qui sont maintenant réunies dans le pavillon où a été signé le traité consacrant en 1905 l'indépendance de la Norvège par rapport à la Suède. L'accord est paraphé par les chefs de délégation en présence du ministre des Affaires étrangères israélien comme témoin. Le gouvernement israélien, à l'exception de Rabin, n'a pas été informé, donc Peres n'a pas le pouvoir officiel de conclure. L'émotion est très grande chez l'ensemble des partenaires. Là, donc là, vous avez la séance de signature sur la photo avec tous les partenaires d'Oslo. Et puis, ensuite, Savir et Abou Arla se serrent la main après la signature. Holst est entre les deux comme médiateur. Donc l'accord est paraphé, voilà ce que j'ai dit. L'émotion est très grande chez l'ensemble des participants. Même si le nombre de personnes informées atteint maintenant la centaine de personnes, la règle de confidentialité est toujours respectée. Donc on passe à la divulgation. À partir du 20 août, les rumeurs se font de plus en plus insistantes sur une négociation secrète en cours entre l'OLP et Israël sans que la filière norvégienne soit mentionné. Cela provoque de nouvelles dissensions dans la direction palestinienne. Le grand poète Mahmoud Darwish, partisan connu du processus de paix, démissionne du comité exécutif de l'OLP sans vouloir s'expliquer. En fait, une partie des modérés n'accepte pas les concessions faites au début du mois lors de l'amendement du document américain. En acceptant le principe Gaza-Jéricho, on admet une phase préparatoire à un statut d'autonomie qui est déjà lui-même considéré comme préparatoire au statut définitif des territoires occupés. Cette contestation sur la façon de conduire les négociations se nourrit de la façon dont est gérée la crise financière de l'organisation palestinienne. Des milliers de fonctionnaires ne sont plus payés, les institutions politiques et les services sociaux sont paralysés, les familles des martyrs ne reçoivent plus les subsides qui leur sont dus. La gestion d'Arafat est contestée de tous les côtés. Réunissant les deux aspects du dossier, Faisal al-Husseini affirme que les Palestiniens ne céderont pas au chantage financier. Citation. Le monde doit débloquer de façon urgente un budget pour couvrir les coûts de nos institutions jusqu'au moment où l'autorité nous sera transférée. Nous commencerons alors à lever nos propres impôts et droits de douane. Mais si nous sommes soumis à des pressions, contraints d'accepter des choses dont nous ne voulons pas, alors nous confierons tout simplement cette responsabilité à d'autres forces au sein du peuple palestinien. Fin de citation. Il faut choisir entre l'OLP et le Hamas. Nous avons pris la responsabilité d'engager des pourparlers de paix pour réaliser une paix globale, obtenir le retrait israélien et construire un État palestinien. Mais à partir du moment où j'estimerai que le processus de paix ne pourra déboucher sur ces objectifs, alors je laisserai cette responsabilité à ceux qui pensent qu'une autre solution est possible. Fin de citation. Les seuls à se montrer optimistes dans ce dossier sont les Israéliens. Certes, les difficultés financières de l'OLP profitent aux islamistes, dont le réseau caritatif s'étend alors que les services sociaux de la centrale palestinienne régressent, mais Rabin marque que les Palestiniens finiront par se mettre d'accord, c'est leur affaire qu'ils se cassent la tête. En Israël, Rabin commence à diffuser l'information. Le chef d'état-major Ehud Barak est hostile, non au principe, mais au contenu de l'accord. Comme Rabin, il est partisan d'une séparation des deux peuples, mais trouve que le texte donne trop aux Palestiniens au détriment des impératifs de sécurité de l'État hébreu qui perd trop d'atouts indispensables lors de la négociation finale. Sharon trouve que Jéricho est une erreur, mais on ne peut y revenir. Le 25 août, le premier ministre israélien appelle Christopher pour lui demander de recevoir d'urgence Peres et Holst en compagnie de Rabinovitch, maintenant ambassadeur d'Israël aux États-Unis. Les Israéliens savent que l'administration Clinton était favorable à l'option syrienne et s'inquiètent donc de sa réaction. La rencontre a lieu le 27 août sur une base militaire californienne à proximité du lieu de villégiature de vacances du secrétaire d'État. Holst communique le contenu de la déclaration de principe et propose que la signature ait lieu à Washington et que l'on organise une aide économique massive aux Palestiniens. Peres insiste sur la nécessité pour les deux peuples d'apprendre à vivre ensemble. L'ampleur de la coopération dans les domaines de l'économie et de la sécurité permettra de surmonter les problèmes les plus difficiles. Même si les Norvégiens ont été efficaces, seuls les États-Unis peuvent vendre l'accord au monde et mobiliser les ressources nécessaires pour faire face aux besoins économiques des Palestiniens. Il propose même de présenter l'accord comme ayant été négocié sous patronage américain. Christopher rejette immédiatement cet honneur et étudie le document. Le secrétaire d'État et Ross conviennent que c'est une avancée historique, mais que toutes les difficultés viennent de son application. Il faut aussi une reconnaissance mutuelle. Christopher propose la Maison-Blanche comme lieu de signature. La veille à Tunis, Faisal El-Husseini et Hanan Eshraoui ont été informés en termes généraux du développement de la filière norvégienne. Le 27, ils peuvent étudier en détail la déclaration de principe. Leur réaction immédiate exprime l'opposition entre l'intérieur et l'extérieur. Je cite, « C'est clair que ceux qui ont paraphé l'accord n'ont pas vécu sous occupation. Vouloir retarder le règlement de la question de la colonisation et de Jérusalem sans même avoir obtenu des garanties qu'Israël ne continuerait pas de créer sur le terrain des faits accomplis qui vont anticiper et préjuger le résultat final. Et qu'en est-il des droits de l'homme ? Il y a des gens à qui nous sommes redevables, un peuple en captivité dont les droits doivent être protégés et les souffrances allégées. Qu'en est-il de toutes nos lignes rouges ? La juridiction et l'intégrité territoriale sont nées en substance et le transfert de l'autorité est purement fonctionnel. » Abou Mazen, Mahmoud Abbas, répond que tout cela doit être négocié. Il y a des gains stratégiques, dont le fait qu'il s'agit d'un accord avec l'OLP et non avec une délégation palestinienne, d'une reconnaissance des Palestiniens comme peuple doté de droits politiques. La discussion sur les personnes déplacées, les réfugiés et Jérusalem sera à l'ordre du jour de la négociation finale. Eshraoui lui répond qu'à ce moment-là, les Israéliens auront rendu un certain nombre de choses irréversibles. Ensuite, Abou Mazen sera à Moscou pour informer les Russes de l'état de la négociation. Ces derniers approuvent la décision palestinienne. Il est maintenant impossible, ça c'est une caricature de Plantu, vous l'avez reconnu, il est maintenant impossible de maintenir la confidentialité des informations. Le 29 août, les grands traits de l'accord sont divulgués par la presse. Gaza-Jéricho d'abord et reconnaissance mutuelle entre l'OLP et Israël. Le 30, le gouvernement israélien réuni en session extraordinaire approuve à une très grande majorité la déclaration de principe. Devant la Knesset, Rabin justifie sa politique par la menace que représente le roménisme dans tout le monde musulman. Il explique que le temps est arrivé de prendre des risques pour la paix. Rien n'a été cédé sur la question de Jérusalem, qui restera la capitale unifiée d'Israël, ni sur celle des implantations dans les territoires, dont aucune ne sera démantelée, ni sur la sécurité qui reste entièrement dans des mains israéliennes. Il précise à la presse que ce n'est rien d'autre qu'un accord intérimaire dans lequel ne figure pas la moindre esquisse de solution définitive. La droite israélienne parle de début de destruction de l'État d'Israël. Netanyahou compare en pire l'accord à celui de Munich. Vous êtes pire que Chamberlain qui a risqué la sécurité d'un autre peuple avant que vous mettez en danger le nôtre. L'émotion est très forte dans le pays où l'on suit les débats avec passion. Le 31 août s'ouvre à Washington la dernière session des négociations officielles. Elle est largement formelle. Faisal Al-Husseini est resté à Jérusalem pour lancer une campagne d'explication auprès de la population palestinienne. Le chef de la délégation israélienne n'a été informé du contenu de l'accord que par la presse. La délégation palestinienne travaille à disparaître pour laisser place à l'OLP en tant que telle. Du côté syrien, on ne cache pas le mécontentement créé par ce qu'on se considère être le double jeu d'Arafat, qui a trahi la unité d'action arabe. Personne ne sait qu'Assad avait accepté le principe de disjonction des deux dossiers. La discussion se poursuit soit par le biais officiel de réunion des délégations, soit par celui de rencontres privées en présence de Denis Ross. Pour les Israéliens, il n'est pas question de reparler d'un retrait total du Golan, qui n'a toujours été qu'une hypothèse, avant d'entendre de la part des Syriens des précisions sur le contenu d'un accord de paix. Quelques petites avancées ont lieu sur ce point, mais de toute façon, Rabin ne veut pas entendre parler d'une percée dans le dossier syrien, avant de voir ce que donne l'application de l'accord avec les Palestiniens. Fidèle à une approche gradualiste et segmentée, il refuse une thérapie de choc, traitant à égalité tous les dossiers du processus de paix. Quant au gouvernement syrien, s'il s'abstient de prendre position officiellement, il laisse sa presse s'en prendre à l'OLP qui a fait des concessions gratuites qui risquent de rendre plus difficiles les négociations pour les autres pays arabes. Les autorités libanaises ont licence de critiquer plus vivement l'accord qui, il est vrai, marginalise complètement la diaspora palestinienne et va donc dans le sens de l'implantation des Palestiniens au Liban, rejetée par toutes les forces politiques libanaises. Le roi Hussein n'a pas dissimulé sa colère de ne pas avoir été informé par Arafat qu'il a rencontré régulièrement des progrès de la filière jordanienne. Sur instruction de Rabin, Ephraim Halevi a démenti régulièrement auprès du monarque les rumeurs de contacts secrets entre l'OLP et Israël. Comme Assad, le monarque croyait à une unité d'action arabe ou pour le moins à l'impossibilité de la rompre. Quant aux membres de la délégation jordanienne, ils en veulent à leurs partenaires palestiniens de ne pas avoir respecté les engagements de coordination. Ces derniers ont du mal à leur faire comprendre qu'ils ont été aussi surpris par les événements. La question immédiate est de savoir si la déclaration de principe qui renvoie à une date ultérieure le règlement du dossier des réfugiés et des personnes déplacées interfère avec l'accord israélo-jordanien à venir. Abu Ala est reparti en Norvège pour discuter avec Sabir et Singer de la reconnaissance mutuelle. On bute sur la question de la fin de l'intifada et de la charte de l'OLP. La centrale palestinienne n'a pas la possibilité d'ordonner à la population palestinienne d'agir dans tel ou tel sens, d'autant plus que le Hamas et la gauche palestinienne s'opposent vigoureusement à l'accord. Arafat lui-même est accaparé par une forme de contestation à l'intérieur du Fatah. Il rappelle que la décision prise est dans la continuité de l'action commencée en 1974. Quant à la révision de la charte, il faut réunir un Conseil national palestinien et la direction palestinienne n'est pas alors sûre d'obtenir une majorité dans ce sens. L'équipe norvégienne s'active pour trouver des solutions, tandis que le siège de la négociation secrète est transféré à Paris. On trouve finalement des compromis. L'OLP, dans une lettre à Holst, rejettera et non renoncera au terrorisme. Les clauses de la charte qui posent problème seront considérées comme n'étant plus en vigueur. Les Israéliens s'engagent à respecter les institutions palestiniennes de Jérusalem tout en refusant de le dire publiquement. Le second accord est conclu dans un hôtel parisien le 9 septembre. Arafat obtient le lendemain une large majorité au Conseil exécutif en dépit de l'opposition menée par Farouk Kademi. Les documents signés sont immédiatement rendus publics, sauf celui concernant le maintien des institutions palestiniennes. Le premier est une lettre d'Arafat à Rabin. Monsieur le Premier ministre, la signature de la déclaration de principe marque une ère nouvelle dans l'histoire du Proche-Orient. Avec cette ferme conviction, je voudrais confirmer les engagements suivants de l'OLP. L'OLP reconnaît le droit de l'État d'Israël à vivre en paix et dans la sécurité. L'OLP accepte les résolutions 242 et 338 du Conseil de sécurité de l'ONU. L'OLP est attaché au processus de paix au Proche-Orient et à une solution pacifique du conflit entre les deux parties et déclare que toutes les questions en suspens relatives à un statut permanent seront réglées par la négociation. L'OLP considère que la signature de la déclaration de principe constitue un événement historique inaugurant une époque nouvelle de coexistence pacifique sans violence ni acte qui pourrait mettre en danger la paix et la stabilité. En conséquence, l'OLP renonce à recourir au terrorisme et à tout autre acte de violence et assumera sa responsabilité sur tous les membres et personnels de l'OLP afin de garantir leur acceptation, prévenir les violations et sanctionner les contrevenants. Dans la perspective d'une ère nouvelle de la signature de la déclaration de principe, dans le cadre de l'acceptation palestinienne des résolutions 242 et 338 du Conseil de sécurité, l'OLP affirme que les articles et les points de la charte palestinienne liant le droit d'Israël à exister, ainsi que les clauses de la charte qui sont en contradiction avec les engagements de cette lettre, sont désormais inopérants et non valides. En conséquence, l'OLP va soumettre à l'approbation du Conseil national palestinien les modifications nécessaire de la charte palestinienne. Sincèrement, Yasser Arafat, président en anglais chairman de l'Organisation de libération de la Palestine, Et il faut noter, c'est essentiel évidemment, que Arafat n'a pas signé en tant que président, president de l'État de Palestine. La preuve, la signature d'Arafat. C'est la même qualité, avec la même qualité qu'il adresse une seconde lettre au ministre norvégien des Affaires étrangères. Cher ministre Holst, je voudrais vous confirmer qu'à la signature de la déclaration de principe, j'inclurai les éléments suivants dans mes déclarations publiques. À la lumière de l'ère nouvelle marquée par la signature de la déclaration de principe, l'OLP encourage et appelle le peuple palestinien de Cisjordanie et de la bande de Gaza à prendre part aux mesures conduisant à la normalisation, rejetant la violence et le terrorisme, contribuant à la paix et à la stabilité et participant activement à la reconstruction, au développement économique et à la coopération. Sincèrement, Yasser Arafat, président chairman de l'Organisation de libération de Palestine. De son côté, Rabin répond par une courte lettre. Monsieur le Président, Chairman, en réponse à votre lettre du 9 septembre 1993, je souhaite vous confirmer qu'à la lumière des engagements de l'OLP qui y figurent, le gouvernement d'Israël a décidé de reconnaître l'OLP comme le représentant du peuple palestinien, en anglais « Palestinian People », et d'engager des négociations avec l'OLP dans le cadre du processus de paix au Proche-Orient. Yitzhak Rabin, Premier ministre d'Israël. Sincèrement, Yitzhak Rabin. Le texte comprend une ambiguïté en anglais. Palestinian people signifie plutôt les Palestiniens que le peuple palestinien. Dans toutes ces déclarations, Rabin fait bien attention à ne pas utiliser peuple palestinien, mais seulement les Palestiniens. Il parle ainsi de la réconciliation entre les Juifs et les Palestiniens, tout en marquant qu'il n'est pas question de revenir aux lignes de 1967. L'accord permet aux Palestiniens de gérer leurs propres affaires pour la période intérimaire, point à la ligne. L'échange de correspondance est déséquilibré. L'OLP reconnaît de jure de droit l'État d'Israël, tandis que ce dernier reconnaît de facto, de fait, l'existence des Palestiniens. Rabin marque sa répugnance à serrer la main d'Arafat, contrairement à Peres, qui rappelle qu'il n'appartient pas à Israël de désigner les dirigeants arabes. Enfin, Israéliens et Américains s'activent auprès de la communauté européenne pour qu'elle prenne en charge une conséquente aide financière aux Palestiniens des territoires occupés. C'est aux Européens de financer la paix. La signature. Primitivement, on avait envisagé que ce soit Abou Mazen et Shimon Peres qui signe les documents, mais Arafat a rapidement compris l'intérêt pour lui d'être reçu par le président des États-Unis. Dès lors, à son corps défendant et au grand dépit de Peres, Rabin est contraint de se rendre à Washington. La date a été fixée au 13 septembre. Il reste d'ultimes problèmes à régler. Les Palestiniens exigent que l'OLP soit mentionné dans la déclaration de principe et que Arafat ne soit pas en uniforme. Il s'ensuit quelques petits psychodrames jusqu'au dernier moment, mais il est clair que ces derniers détails ne peuvent empêcher la signature. Finalement, Arafat peut porter sa tenue habituelle, mais sans armes. Et Peres rajoute à la main, au début et à la fin du document, le mot LP à côté de celui de délégation palestinienne. 3000 invités assistent à la cérémonie sur les pelouses de la Maison Blanche. Jimmy Carter presse Clinton de forcer Rabin et Arafat à un tête-à-tête. Le président américain comprend l'importance des gestes et réussit à obtenir de Rabin, dont la réticence est évidente, à serrer la main d'Arafat. Clinton étant placé plus que symboliquement entre les deux hommes. L'épreuve la pire, ce n'est pas serrer la main d'Arafat, c'est d'être embrassé par Arafat. En général, les négociateurs américains et israéliens multiplient les subterfuges pour éviter l'accolade avec Yasser Arafat, ce qui donne des pages croustillantes dans les mémoires des acteurs. Rabin, dans une déclaration en anglais, appelle à la fin des violences. Je cite « Nous venons d'une terre de souffrance et d'angoisse. Nous venons d'un peuple, d'une maison, d'une famille qui n'a pas connu une seule année, un seul mois au cours desquels des mères n'ont pas pleuré leurs fils. Nous venons pour essayer de mettre fin aux hostilités afin que nos enfants, les enfants de nos enfants, n'aient plus à payer la douloureuse tribu de la guerre, de la violence et de la terreur. Laissez-moi vous dire, Palestiniens, nous sommes destinés à vivre ensemble sur le même sol de la même terre. Nous qui sommes battus contre vous, les Palestiniens, nous vous disons aujourd'hui d'une voix forte et claire, assez de sang et assez de larmes. Fin de citation. Arafat, dans sa déclaration faite en arabe, insiste sur le droit à l'autodétermination du peuple palestinien. Je cite. « Au nom de Dieu, plein de grâce et de miséricorde, je souhaiterais exprimer notre très haute estime au président Clinton et à son administration pour avoir parrainé cet événement historique attendu par le monde entier. Nous partageons vos valeurs de liberté et de justice et en faveur des droits de l'homme, des valeurs pour lesquelles mon peuple a toujours lutté. Mon peuple espère que cet accord, comme nous signons aujourd'hui, marquera le début de la fin d'un chapitre de douleur et de souffrance qui a duré pendant tout ce siècle. Mon peuple espère que cet accord que nous signons aujourd'hui débouchera sur une ère de paix, de coexistence et d'égalité des droits. Nous comptons sur tous les pays qui croient que sans paix au Moyen-Orient, la paix dans le monde ne saurait être. Maintenant que nous sommes au seuil d'une nouvelle ère historique, laissez-moi m'adresser au peuple d'Israël, à ses dirigeants que nous rencontrons aujourd'hui pour la première fois, et laissez-moi leur assurer que la difficile décision que nous avons prise ensemble était de celle qui nécessitait un courage exceptionnel. L'application de l'accord est la route vers la mise en œuvre définitive après 2 ans de toutes les modalités des résolutions 242 et 338 et la résolution de toutes les questions relatives à Jérusalem, aux implantations, aux réfugiés et aux frontières seront de la responsabilité palestinienne et israélienne. Il appartient également à la communauté internationale dans son ensemble d'aider les parties à surmonter les difficultés incroyables qui se dressent toujours sur le chemin d'un accord global et définitif. Notre peuple ne considère pas que l'exercice de son droit à l'autodétermination puisse violer les droits de ses voisins ou porter atteinte à leur sécurité. Au contraire, mettre fin à leur sentiment d'avoir été maltraité et d'avoir subi une injustice historique constitue la plus ferme garantie pour parvenir à une coexistence et une ouverture entre nos deux peuples et les générations futures. Nos deux peuples attendent aujourd'hui cet espoir historique, ils veulent donner une réelle chance à la paix. Je tiens à remercier la Fédération de Russie, le gouvernement de la Norvège. Je salue également tous les dirigeants arabes, nos frères, et tous les dirigeants du monde qui vont contribuer à cette réalisation. Mesdames et messieurs, la bataille pour la paix est la plus difficile bataille de notre vie. Elle mérite nos efforts les plus soutenus. Monsieur le Président, merci, merci, merci. Fin de citation. Clinton salue les efforts qui ont permis de faire avancer le processus de paix et engage son pays dans la suite des événements. Je cite. « Je m'engage à apporter le soutien actif des États-Unis d'Amérique à la difficile tâche qui s'ouvre devant nous. Les États-Unis sont déterminés à assurer que l'accord rendra plus confiants les peuples qu'ils concernent et à prendre la tête d'un effort international pour réunir les ressources nécessaires à l'application des détails difficiles qui feront que les principes pour lesquels vous vous engagez aujourd'hui deviennent une réalité. Les enfants d'Abraham, les descendants d'Isaac et d'Ismaël ont embarqué pour un voyage hardi. Ensemble, aujourd'hui, avec tout notre cœur et toute notre âme, nous leur souhaitons shalom, salam, paix. » Peace en anglais. Fin de citation. L'accord qui entrera dans l'histoire sous le nom d'Oslo 1 comprend 2 volets. Le premier, l'échange de correspondances consacrant la reconnaissance mutuelle datée du 9 septembre. Le second est la déclaration de principe signée le 13 septembre à Washington par Mahmoud Abbas et Shimon Peres. Donc la déclaration de principe, nous allons commencer à la lire. C'est obligatoire, c'est long, je suis désolé, mais jusqu'à aujourd'hui, c'est le texte de référence. Comme vous avez entendu cette semaine, on disait c'est contraire aux accords d'Oslo. C'est bien ces textes-là qu'il faut prendre en main avec tout, évidemment, le langage bureaucratique que cela représente. Donc, déclaration de principe sur les arrangements intérimaires d'autogouvernement, self-government. Le gouvernement de l'État d'Israël et l'équipe de l'OLP, dans la délégation jordano-palestinienne à la conférence de la paix sur le Proche-Orient, donc à partir du moment. Le mot « délégation palestinienne » renverra à cette définition, représentant le peuple palestinien, sont d'accord qu'il est temps de mettre fin à des décennies de confrontations et de conflits, de reconnaître leurs droits légitimes et politiques réciproques, de s'efforcer de vivre dans la coexistence pacifique et la dignité et la sécurité mutuelle, et de parvenir à un règlement de paix juste, durable et global, ainsi qu'à une réconciliation historique dans le cadre du processus politique agréé. En conséquence, les deux parties sont d'accord sur les principes suivants. Article 1er, but de négociation. Le but des négociations israélo-palestiniennes dans le cadre actuel du processus de paix au Moyen-Orient est entre autres d'établir une autorité palestinienne d'autogouvernement intérimaire, Palestinian Interim Self-Government Authority. Donc c'est la formule Pisgah qui l'a emportée, si vous vous rappelez le cours de la semaine précédente. Le conseil élu, donc à partir du moment dans le texte, ce sera mot conseil, pour le peuple palestinien en Cisjordanie et dans la bande de Gaza pour une période transitoire ne dépassant pas 5 ans et menant à un règlement permanent basé sur les résolutions 242 et 338 du Conseil de sécurité. Il est entendu que les arrangements intérimaires sont partie intégrante du processus de paix dans son ensemble et que les négociations sur le statut permanent mèneront à la mise en œuvre des résolutions 242 et 338 du Conseil de sécurité. Remarquez les subtilités de la langue diplomatique. La première référence à la 242, c'est « basé sur », et la seconde référence, c'est « mise en œuvre de », ce qui n'est pas exactement la même chose. Article 2. Le cadre de la période intérimaire. Le cadre agréé pour la période intérimaire est présenté dans cette déclaration de principe. Ouf. On passe à l'article 3. Élection. 1. Pour que le peuple palestinien en Cisjordanie dans la bande de Gaza puisse se gouverner selon les principes démocratiques, des élections politiques directes, libres et générales seront organisées pour le Conseil sous une supervision agréée et une observation internationale, tandis que la police palestinienne assurera l'ordre public. Alors, le texte anglais donne le mot « people » qui s'accorde au pluriel. Donc, le sens possible n'est pas seulement « peuple palestinien », mais ça peut être « les Palestiniens ». Cet accord au pluriel se retrouve dans l'ensemble du texte. Deuxièmement, un accord sera conclu sur le mode et les conditions précises des élections conformément au protocole constituant l'annexe 1 avec l'objectif d'organiser les élections au plus tard 9 mois suivant l'entrée en vigueur de cette déclaration de principe. Point 3. Les élections constitueront une étape préparatoire significative en vue de la réalisation des droits légitimes du peuple palestinien et de leurs justes exigences. Article 4. Juridiction. La juridiction du Conseil couvrira le territoire de la Cisjordanie et de la bande de Gaza, à l'exception des questions qui seront négociées lors des négociations sur le statut permanent. Les deux parties considèrent la Cisjordanie et la bande de Gaza comme une unité territoriale unique dont l'intégrité sera préservée durant la période intérimaire. Ça, c'est une clause essentielle qui pose toute une série de problèmes de nature juridique. Jusqu'à aujourd'hui. Cette définition de la Cisjordanie de la bande de Gaza comme une entité territoriale unique est plus une pétition de principe qu'autre chose, dans la mesure où l'accord divise de fait la Cisjordanie et la bande de Gaza au moins en 3 parties. Le secteur d'où s'est retirée l'armée israélienne, le secteur où cette dernière se redéploie et les colonies de peuplement israélien. De surcroît, le texte anglais, The jurisdiction of a council will cover West Bank and Gaza Strip territory, comprend une nouvelle fois l'omission de l'article défini comme dans la déclaration, dans la résolution 242. Je rappelle, withdrawal of Israeli Army Force from territories occupied in the recent conflict. Ce qui laisse ouvert la question de savoir s'il s'agit bien de la totalité de la bande de Gaza et de la Cisjordanie. L'essentiel est pourtant renvoyé aux négociations sur le statut permanent. On repasse à la déclaration de principe. Article 5. La période transitoire et les négociations sur le statut permanent. La période transitoire de 5 ans commencera avec le retrait de la bande de Gaza et de la zone de Jéricho. Terme utilisé en anglais, Jéricho à Ruin. Ce qui pose problème puisqu'une zone de Jéricho n'est pas une circonscription administrative de Jéricho. Deuxièmement, les négociations entre le gouvernement israélien et les représentants du peuple palestinien sur le statut permanent commenceront le plus tôt possible et au plus tard au début de la troisième année de la période intérimaire. Il est entendu que les négociations couvriront les questions restantes, y compris Jérusalem, les réfugiés, les implantations, les arrangements de sécurité, les frontières, les relations et la coopération avec les autres voisins et d'autres sujets d'intérêt commun. Le point essentiel est le suivant, c'est le point 4 de l'article 5. Les deux parties conviennent que les accords auxquels elles parviendront durant la période intérimaire ne doivent pas porter préjudice au résultat des négociations sur le statut permanent ou l'anticiper. C'est évidemment une question essentielle puisque la dynamique qui va justement créer dans les accords d'Oslo va exactement dans le sens inverse. Chacun va essayer de multiplier les faits accomplis pour être en position pour la négociation finale. Point supplémentaire dans l'article 6, l'autonomie est un transfert d'autorité de la puissance occupante sans qu'elle soit définie comme telle. Article 6, le transfert préparatoire des pouvoirs et des responsabilités. 1. Dès l'entrée en vigueur de la déclaration de principe et le retrait de la bande de Gaza et de la zone de Jéricho, commencera un transfert d'autorité du gouvernement militaire israélien et de son administration civile aux Palestiniens mandatés pour cette tâche, comme détaillé dans ce texte. Ce transfert d'autorité sera de nature préparatoire jusqu'à l'inauguration du Conseil. Autrement dit, toute la juridiction de l'autorité palestinienne n'est qu'une délégation de pouvoir de l'autorité d'occupation. Deuxièmement, immédiatement après l'entrée en vigueur de cette déclaration de principe et le retrait de la bande de Gaza et de la zone de Jéricho, et afin de promouvoir le développement économique en Cisjordanie dans la bande de Gaza, l'autorité sera transférée aux Palestiniens dans les domaines suivants: éducation et culture, santé, affaires sociales, taxation directe et tourisme. La partie palestinienne commencera à constituer une force de police ainsi qu'il en sera convenu. En attendant l'inauguration du Conseil, les deux parties pourraient négocier le transfert d'autres pouvoirs et responsabilités comme convenu. Donc, l'accord d'Oslo n'est que la première étape d'une série de négociations. Il n'est pas d'application immédiate ni de portée pratique. Article 7. L'accord intérimaire. 1. Les délégations israéliennes et palestiniennes négocieront un accord sur la période intérimaire, qui sera défini comme l'accord intérimaire. Deuxièmement, l'accord intérimaire devra spécifier, entre autres, la structure du Conseil, le nombre de ses membres, ainsi que le transfert en faveur du Conseil de pouvoir et de responsabilité du gouvernement militaire israélien et de son administration civile. L'accord intérimaire devra aussi spécifier l'autorité exécutive du Conseil et son autorité législative, conformément à l'article 9 ci-dessous, ainsi que les organes judiciaires palestiniens indépendants. Troisièmement, l'accord intérimaire devra inclure des arrangements à mettre en œuvre dès l'inauguration du Conseil pour la prise en charge par le Conseil de tous les pouvoirs et responsabilités qui auront été précédemment transférés conformément à l'article 6. Quatrièmement, pour permettre au Conseil de promouvoir la croissance économique, le Conseil, lors de son inauguration, établira entre autres un office d'électricité palestinien, un office du port de maritime de Gaza, une banque palestinienne de développement, un bureau palestinien de promotion des exportations, un office palestinien pour l'environnement, un office foncier palestinien, un office palestinien pour l'administration de l'eau et toute autre structure préalablement convenue, conformément à l'accord intérimaire qui spécifiera leurs pouvoirs et responsabilités. Cinquièmement, après l'inauguration du Conseil, l'administration civile sera dissoute et le gouvernement militaire israélien sera retiré. Donc, comme il faut rappeler que l'administration civile israélienne n'était qu'une pure fiction juridique, étant donné qu'elle était essentiellement composée de militaires. Quant au gouvernement militaire, il avait ses quartiers généraux en Israël même et récupère la totalité des compétences non transférées à l'autorité palestinienne. cette dernière n'ayant que des compétences déléguées par le gouvernement militaire. Israël conserve le contrôle des frontières des colons qui ne sont pas mentionnés en tant que tels. Article 8, ordre public et sécurité. Afin de garantir l'ordre public et la sécurité intérieure des Palestiniens de Cisjordanie et de la bande de Gaza, le Conseil établira une puissante force de police, tandis qu'Israël conservera la responsabilité de la défense contre des menaces extérieures, de même que la responsabilité de la sécurité globale des Israéliens, de manière à sauvegarder la sécurité intérieure et ordre public. Les lois, ensuite, l'article 9 maintient le contrôle israélien sur les lois palestiniennes. 1. Le Conseil aura le pouvoir de légiférer conformément à l'accord intérimaire dans les limites de toutes les autorités qui lui ont été transférées. 2. Les deux parties réviseront en commun les lois et ordonnances militaires actuellement en vigueur dans les domaines restants. Donc, en clair, le gouvernement militaire israélien conserve le droit de veto sur la législation palestinienne. Article 10. Comité de liaison. En vue d'assurer une mise en œuvre sans heurts de la déclaration de principe de tout autre accord subséquent concernant la période intérimaire, un comité de liaison israélo-palestinien conjoint sera établi lors de l'entrée en vigueur de cette déclaration de principe afin de traiter des questions exigeant une coordination, d'autres problèmes d'intérêt commun et des différends. On insiste sur la coopération économique. Article 11. Coopération économique israélo-palestinienne. Reconnaissant le bénéfice commun de la coopération pour promouvoir le développement de la Cisjordanie, de la bande de Gaza et d'Israël, un comité israélo-palestinien de coopération économique sera établi dès l'entrée en vigueur de cette déclaration de principe afin de développer et de mettre en œuvre par la coopération les programmes identifiés dans les protocoles constituant les annexes 3 et 4. Courage. Je ne vous donnerai pas la lecture des annexes. Le contrôle israélien porte aussi sur le retour des personnes déplacées en 1967. Article 12. Les deux parties inviteront les gouvernements de Jordanie et d'Égypte à participer à l'établissement d'autres arrangements de liaison et de coopération entre le gouvernement d'Israël et les représentants palestiniens d'un côté et les gouvernements de Jordanie et d'Égypte de l'autre afin de promouvoir la coopération entre eux. Ces arrangements incluront la création d'un comité permanent qui décidera par accord des modalités d'admission des personnes déplacées en 1967 de la Cisjordanie et de Gaza, de même que des mesures nécessaires pour prévenir les désordres. D'autres sujets d'intérêt commun seront traités par ce comité. Bon, rappel général, il y a deux catégories de réfugiés palestiniens. Il y a les réfugiés palestiniens de 48 qui sont immatriculés à l'UNRWA, et les personnes déplacées en 1967 qui ont le statut non pas de réfugiés mais de personnes déplacées, mais évidemment pour compliquer le tout, des réfugiés de 48 peuvent être des personnes déplacées de 1967. On parle de redéploiement et non de retrait des forces israéliennes dans l'article 13. Après l'entrée en vigueur de cette déclaration de principe, ou plus tard à la veille des élections pour le Conseil, un redéploiement des forces militaires israéliennes en Cisjordanie dans la bande de Gaza sera opéré, en plus du retrait des forces israéliennes opéré conformément à l'article 14. En redéployant ces forces militaires, Israël sera guidé par le principe selon lequel ces forces militaires doivent être déployées hors des zones peuplées. D'autres redéploiements dans des sites spécifiés seront mis en œuvre graduellement au fur et à mesure de la prise en charge de l'ordre public et de la sécurité intérieure par la police palestinienne, conformément à l'article 8. Article 14. Israël se retirera de la bande de Gaza et de la zone de Jéricho, ainsi qu'il est détaillé dans le protocole constituant l'annexe 2. L'article 15 est essentiel puisqu'il rejette la possibilité d'un arbitrage extérieur. 1. Les différends qui pourraient surgir de l'application ou de l'interprétation de ces déclarations de principe ou de tout accord subséquent concernant la période intérimaire devront être résolus par des négociations dans le cadre du comité de liaison conjoint prévu dans l'article 10. Les différends qui ne peuvent pas être réglés par des négociations pourront être résolus par un mécanisme de conciliation agréé par les parties. Les parties pourront convenir de soumettre à l'arbitrage tout différend lié à la période intérimaire qui n'aura pas été réglé par la conciliation. À cette fin, après accord des deux parties, les parties établiront un comité d'arbitrage. Les Israéliens ont été traumatisés par le fait que les accords de Camp David offraient une possibilité d'arbitrage international et que, quand ils avaient refusé d'évacuer la zone de Taba, les Égyptiens ont obtenu un arbitrage international qui avait en effet reconnu que Taba était égyptien et donc les Israéliens avaient dû abandonner, enfin, rétrocéder le secteur de Taba. Donc ils veulent cette fois-ci refuser l'arbitrage automatique qui était prévu dans les accords de Camp David entre l'Égypte et Israël. Alors ensuite, on a un grand plan économique régional à l'article 16. Ça fait plaisir à Shimon Peres et à Ahmed Korey. Les deux parties considèrent les groupes de travail créés dans le cadre des négociations multilatérales comme un instrument approprié pour promouvoir un plan Marshall. Ça, cette manie du plan Marshall qu'on veut faire partout est assez épuisante. Des grands programmes régionaux et d'autres programmes, y compris des programmes spéciaux pour la Cisjordanie et la bande de Gaza, comme indiqué dans le protocole constituant l'annexe 4. Article 17, dispositions diverses. Cette déclaration de principe entrera en vigueur un mois après la signature. Tous les protocoles annexés à cette déclaration de principe et le procès-verbal agréé qui est relatif devront être considérés comme faisant partie intégrante. Les annexes comprennent le droit des Palestiniens de Jérusalem à participer au processus électoral conformément à un accord entre les deux parties. Les modalités des élections seront fixées par accord. La formule est suffisamment obscure pour éviter la question de savoir si les habitants de Jérusalem-Est votent dans leur ville. On fixe aussi les conditions de transfert des compétences de l'autorité militaire israélienne. On évoque aussi longuement les modalités de la coopération économique israélo-palestinienne. Et on va s'arrêter là, puisque ce que nous verrons la fois prochaine, c'est les interprétations possibles de la déclaration de principe. Mais en tout cas, nous avons fait pour une fois un effort considérable pour arriver à une solution pacifique. C'est bien la première fois depuis quelques décennies que je fais ce cours. Je vous remercie.